France Culture, l'esprit d'ouverture.
France Culture et Sorbonne Université vous invitent au forum « L'année vue par les savoirs ». Et si tout se jouait le 26 mai ? Europe, le moment de vérité. L'Europe est-elle un mythe, un rêve ou un cauchemar démocratique ? Quelles frontières ? À qui profite l'Europe ? À moins d'un mois d'élections déterminantes, France Culture sonde les enjeux qui traversent le continent au cours de 4 tables rondes et d'un dialogue de clôture animé par les producteurs de la chaîne. Venez nombreux, samedi 13 avril dès 10h dans le Grand Amphithéâtre de la Sorbonne à Paris. Un événement en partenariat avec La Croix, l'Histoire, Alternatives économiques et avec le soutien de la Chancellerie des Universités de Paris. Plus d'infos, franceculture.fr. Entrée gratuite, réservation obligatoire sur maisondelaradio.fr. France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité par Anne-Laure Chouin.
Bonjour à toutes et à tous, et l'actualité ce matin sur France Culture, c'est ce premier débat avec avant les élections européennes organisées hier soir par France Inter et France 2 avec 12 têtes de liste, un débat laborieux qui avait été précédé d'une action en justice intentée par les non-invités. Principal enseignement, la grande ligne de fracture entre les candidats se situe toujours entre les souverainistes et les fédéralistes. À gauche, l'unité ne semble toujours pas possible. En politique, toujours, c'est un revers pour le gouvernement qui en avait fait le pilier de sa loi dite anti-casseur. Le Conseil constitutionnel a retoqué hier l'interdiction administrative de manifester prévue dans la proposition de loi. L'Élysée dit avoir pris acte de cette censure partielle. D'autres dispositions, notamment celles concernant la création d'un délit de dissimulation du visage, ont été confirmées. Les enseignants sont à nouveau descendus dans la rue hier pour protester contre le projet de loi sur l'école et la réforme du lycée et du bac. Ce sont les professeurs de maternelle et de primaire qui se sont le plus mobilisés. Selon le ministère de l'Éducation, 15% des instituteurs étaient en grève, 25% selon le premier syndicat du primaire, le SNUIP-FSU. À l'étranger, net regain de tension en Libye, où l'homme fort de l'est du pays, le général Haftar, a ordonné hier à ses forces d'avancer en direction de la capitale, Tripoli. La communauté internationale craint de nouveaux affrontements qui avait déjà déchiré le pays après la mort de Kadhafi. Dans 10 jours doit se tenir une conférence nationale censée aboutir à l'organisation d'élections. On y reviendra dans notre journal de 8h. En Algérie, la population se prépare pour un 7e vendredi de manifestation, alors que le pouvoir est entré dans une phase d'intérim et que de nombreuses questions se posent quant à la suite des événements. Enfin, la Chine et les États-Unis sont sur le point de conclure un accord commercial. C'est ce qu'ont affirmé, en tout cas, cette nuit, les dirigeants des deux puissances, à un accord qui pourrait être conclu d'ici à 4 semaines. On n'en sait pas plus sur le devenir, notamment des droits de douane imposés par les États-Unis sur 250 milliards de dollars de produits chinois.
Le 7 avril 1994 débute le génocide des Tutsis au Rwanda. Il fera 800 000 victimes en 100 jours. Printemps 2019, 25 ans après, à quoi ressemble aujourd'hui le Rwanda? Comment s'est transmise la mémoire du génocide? Quelles traces dans les corps et les esprits?
Il n'y a plus d'héroïne.
Enquête documentaire, témoignages, reportages sur France Culture, semaine spéciale 25e anniversaire du génocide rwandais, avec ce dimanche 7 avril, une grande soirée de fiction et de documentaire de 21h à minuit et sur franceculture.fr, en partenariat avec Courrier International.
6h02 sur France Culture, excellent réveil à toutes et à tous. Je vous laisse en compagnie de Toufik Hakem et son réveil culturel.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
C'est l'histoire d'un tournage de film, mais pas n'importe lequel, de Misfits, les Désaxés en français, que John Huston tourne au Nevada en 1960. Il y a Arthur Miller et Marilyn Monroe, Clark Gable, Montgomery Clift et Lee Wallach à faire revivre en dessin. C'est l'histoire d'un tournage, les coulisses d'un grand film crépusculaire dans une grande bande dessinée mélancolique, en noir et blanc comme le film bien sûr. Cette bande dessinée éditée chez Futuropolis a pour titre Hollywood Menteur. Son auteur Luz est l'invité du Réveil Culturel. Bonjour tout le monde, bonjour Luz.
Bonjour Toufik.
Le Réveil Culturel. Vendredi, bande dessinée.
Faut-il remercier les Cahiers du cinéma? C'est eux qui vous ont donné cette idée de raconter le tournage de ce film de John Huston pour leur revue?
Alors non, c'est pas eux. Je crois qu'il faut remercier le cinéma indépendant déjà. Il faut remercier, je pense que c'est le Champollion, là où j'avais vu les Misfits, donc dans un vrai cinéma, dans une vraie salle, avec des vrais fauteuils.
Le grand écran,
le vrai imaginaire, en 2014, avec mon épouse, on venait de se marier à Las Vegas, et puis on va regarder les aventures de Marilyn, de Roselyne, de Gay, de Pierce, de ces cow-boys et de cette femme un petit peu apparemment perdue dans le désert du Nevada, et quelque chose s'est insinué en moi, une espèce de... Peut-être, je sais pas, peut-être une intrigue, c'est pourquoi j'aimais ce film, pourquoi tout d'un coup ça ne m'a plus jamais lâché. Et puis il a fallu que j'aille au fond de moi. Pour aller au fond de moi, il faut que je dessine, ça c'est la base. Et puis finalement, entre-temps, en janvier 2015, je suis rentré dans un grand film. J'étais au milieu d'un grand film, d'un grand spectacle, d'un grand Barnum. Et peut-être que de se réintéresser à un autre film, ça a peut-être été une manière aussi de sortir du mien, de sortir de mes propres backstage, de mes propres coulisses, de cette propre irréalité. Il a fallu que j'aille...
Ce film, votre vie, c'est bien sûr Charlie, les attentats de Charlie.
Et oui, et l'autre film, c'est Les Misfits, qui a été tourné en 1960. Et voilà, j'avais envie d'aller voir ce qui se passait derrière. Peut-être voir ce qui se passait derrière cette obsession. Voir ce qui se passait derrière ma tête aussi. Et plus, voilà. Peut-être, j'ai pas trop emprunté au code du cinéma, mais il y a quelque chose que j'ai d'office emprunté, c'est zoomer. J'ai voulu me rapprocher des acteurs, me rapprocher de la vie. Peut-être de la vie réelle, et la vie réelle, parfois, c'est l'imaginaire. La vie réelle, parfois, c'est le cinéma.
Alors, je vous dis ça, Luz, parce que Hollywood Menteur, qui sort d'ailleurs aujourd'hui, en librairie, réunit un peu ce que vous avez livré au Cahier du cinéma. C'est-à-dire que ça a été déjà prépublié par cette revue de cinéma. C'est pour ça que je vous ai posé la question.
Oui,
est-ce que l'idée venait d'eux, plutôt, ou c'est vous qui êtes allé toquer à leur porte, parce que vous aviez déjà travaillé avec eux, pour leur proposer...
Alors oui, effectivement, j'avais travaillé avec eux...
Avec une
improbable, parce que les Cahiers m'avaient juste demandé de faire le dernier numéro de décembre 2015 pour résumer un petit peu l'année 2015. Et puis je me dis pas, tiens, je suis très flatté, c'est un journal que j'aime bien. Donc allons-y. Et le temps de réfléchir sur l'idée de cette couverture, le 13 novembre est arrivé. Voilà, le temps de réfléchir à cette une. Et donc la une des Cahiers du cinéma, donc de novembre, sortie en décembre, et de novembre 2015, sortait une une de moi, mais qui parlait plus du 13 novembre, et qui n'était pas un bilan de l'année, mais qui était peut-être malheureusement une forme de ressucé de l'année, on va dire. Et un remake.
Alors, et cette histoire, l'histoire du tournage du film de Misfits, publié par les Cahiers, comment ça s'est fait?
Voilà, ça c'est tout bêtement. Bon, il y a déjà ce cousinage avec les Cahiers. Et quand j'ai continué à travailler dessus, à sortir des choses, à essayer de comprendre, à zoomer, à aller dans les backstage de ce film, juste pour moi, je me suis rendu compte qu'il fallait qu'on m'aide. Et c'était déjà la même chose après le 7 janvier, c'est que j'avais commencé à faire des dessins, me réapproprié mon dessin, et j'ai cogné à la porte de Futuropolis. Précisément, j'étais allé voir Alain David qui avait déjà publié Cabu, et je lui ai dit, écoute, il faut que tu m'aides là, je suis en train de faire des dessins, je sais pas, il y a quelque chose qui doit sortir de moi. Et j'ai fait un peu la même chose avec les Cahiers du cinéma, en me disant, écoutez, je suis en train de m'obséder sur un film, j'ai envie de raconter les coulisses des Misfits, de ce film crépusculaire, Marilyn, Clark Gable, Montgomery Clift, mais il y a quelque chose derrière, et je suis obligé de le faire. Donc il faut que je trouve un endroit pour le faire. Est-ce que vous voulez m'accueillir? Est-ce que vous voulez accueillir un dessinateur obsessionnel? Et ils m'ont accueilli. Et ça a fait, pendant 2 ans, on a travaillé ensemble, ça a fait quelques planches qui, au début, parler du cinéma, parler de backstage, parler de coulisses, parler d'une fabrication de films. Et finalement, après, j'avais 40 pages, j'avais envie de faire un bouquin, et c'est devenu autre chose. Oui, c'est une bande dessinée. Une bande dessinée, ouais. Une bande dessinée qui parle de l'illusion. Une bande dessinée, un film, un livre, tout ça c'est la même chose. L'imaginaire, c'est ce qui nous fait vivre. Donc, c'est normal qu'on fasse des confusions.
Et vous avez beaucoup travaillé, Luce, parce que ça se lit comme une fiction, hein. Même si le film existe, même si tout le monde connaît ce film, ça a été un échec commercial à sa sortie. Mais après, il a tout de suite gagné son statut de film culte, hein, parce qu'il va se passer plein de choses. Vous, vous êtes beaucoup documenté. Même si, je le redis, on lit cette aventure comme si c'était une fiction, une pure fiction.
Disons que c'est le, il faut s'appuyer. Moi, je me suis toujours appuyé sur la réalité pour imaginer la réalité de l'ambiance politique du moment quand je faisais du dessin de presse ou tout simplement pour faire du reportage. J'allais voir j'allais voir ce qui se passait, les manifs, etc. Et là, c'est un peu la même chose. Il fallait que j'aille quand même me documenter, lire plusieurs livres sur. Il y a un livre formidable sur le tournage de Misfits qui s'appelle The Story of the Misfits de James Good, qui a jamais été édité en France, qui est sorti en 62 ou 63, juste après la fin du tournage. Il y a aussi, c'est simple, il y a les biographies de tous les acteurs, c'est con, mais il y a Internet, puisque Marilyn, c'est un fantasme qui est, chaque personne a son propre fantasme de Marilyn, donc chacun a une chose à dire sur Marilyn, donc s'inspirer, chercher des informations, en fait c'est assez simple, il suffit d'ouvrir les yeux.
Now, don't get discouraged, girl. You might.
I don't place you floating around here like this. You belong to Gay?
I don't know where I belong.
Ah, c'est beau, hein, d'entendre le réveil.
On a juste envie de dire à Marilyn, mais parle plus fort, on ne t'entend pas, comme c'est bien raconté dans votre bande dessinée, Luz, Hollywood menteur.
On a envie qu'elle nous accompagne le matin, qu'elle vienne nous susurrer dans l'oreille, réveille-toi, c'est juste, et puis derrière, Claire Gable, j'ai préparé le café, et venez, réveillez-vous, auditeurs de France Culture.
Est-ce que vous avez eu peur au début de devoir dessiner cette icône qu'est Marilyn Monroe?
Au début, je me suis surtout consacré à Montgomery Clift, qui est une icône un petit peu plus en retrait, donc ça a été beaucoup plus simple. Et après, quand j'ai commencé à dessiner Marilyn, effectivement, j'ai eu peur. Je pense que c'était pas mon personnage principal au départ, parce que j'avais peur de me confronter au symbole, à l'icône et aux images. Et aussi, peut-être, c'est là où finalement, quand j'ai commencé à me dire, il faut pas que je laisse tomber la personne qu'il y a derrière le personnage. Je me suis rendu compte que j'arrivais, que toutes les images que j'avais en face de moi, c'était les images d'une femme heureuse, souriante. Et du coup, il a fallu accepter que j'allais pas la dessiner de manière absolument ensemblante, parce que si on veut dessiner Marilyn Monroe telle qu'on l'a dans le cœur, c'est pas la Marilyn Monroe qu'on a sur les posters. Il faut dépasser le poster pour comprendre, je sais
c'est
pas,
même
mais
la proposition de votre histoire, quoi, de dépasser le poster, l'image qu'elle donnait d'elle au cinéma, Luz, dans Hollywood menteur. Il y a quelque chose qui nous accroche, on voit Marilyn, on reconnaît Marilyn. Et il faut attendre la fin du livre, c'est-à-dire lire la postface de Virginie Despentes pour se rendre compte que d'une chose incroyable. C'est vrai qu'on n'a jamais vu Marilyn Monroe en colère.
Jamais. Sur l'ensemble des photographies que
c'est
vous avez.
C'est le défi que vous lancez à Virginie Despentes un jour en lui disant « Elle a été photographiée par presque tous les photographes qui pouvaient la photographier à ce moment-là. » Donc il y a beaucoup de photos, beaucoup de documents de Marilyn. Mais jamais on la voit énervée.
Jamais. C'est terrible, c'est comme une personne qu'on aurait cryogénisée, qu'on aurait mis dans une boule de Noël, qu'on aurait... Marilyn, elle a été piégée, peut-être finalement par le sexe symbole. Et ce film, Les Misfits, qui devait être Miller, son mari à l'époque, voulait lui offrir le rôle de sa vie, le rôle dramatique de sa vie. Et effectivement, on la voit un peu différente, mais on la voit un petit peu perdue plutôt. Et il y a une scène scène. Il y a une scène incroyable qui m'a obsédé très longtemps. C'est une scène où elle est en colère. Elle est dans le désert. Elle s'adresse à ces trois hommes, à deux cow-boys et un pilote. Et elle leur dit, vous êtes des menteurs, vous êtes des lâches, vous n'avez rien compris à la vie, etc. Et John Huston la filme de très très loin. Même John Huston n'ose pas se rapprocher de la colère de Marilyn. Et comme on sait que Marilyn était très proche de Paula Strasberg, Lee Strasberg, les acteurs studios, cette nouvelle méthode d'acting qui est de puiser en soi les émotions pour pouvoir les transmettre à l'écran, je me suis dit, elle a dû puiser en elle, c'est la seule scène dans toute sa carrière où elle est en colère, elle a dû puiser en elle de la colère qu'elle avait cachée, qu'elle avait mise sous le tapis pour pouvoir s'exprimer. Et quand on entend le film, quand on entend la voix de Marilyn qui crie dans ce désert-là, on la voit de très très loin, mais on entend sa voix, on se dit qu'elle hurle quelque chose qui est au fond d'elle-même. Alors j'ai voulu savoir qu'est-ce qu'il y avait au fond d'elle-même. Et au fond d'elle-même, voilà, il y a aussi une femme qui a été un peu maltraitée par Hollywood, qui a aussi été un peu maltraitée par les hommes, plus qu'un peu, et qui a été subissait une maladie qui n'était pas très connue à l'époque et que maintenant on connaît un petit peu mieux, qui est l'endométriose, qui permet de comprendre pourquoi elle arrivait un peu en retard sur les tournages. Et après tout, je me suis dit, mais c'est vrai qu'on a un symbole d'une jeune fille glamour, souriante, et puis c'est pratique d'avoir le mythe que le symbole de la féminité soit quelque chose de presque docile. Mais en fait, non, je crois qu'elle n'était pas docile. Je pense que c'était quelqu'un de particulièrement courageux. J'avais envie qu'on se rapproche d'elle pour voir que c'était peut-être aussi une figure de ténacité, de courage. Et puis les symboles, vous savez, on en fait ce qu'on veut, en fait. On n'est pas obligé d'utiliser les symboles qui datent d'il y a 60 ans. Finalement, Marilyn, on peut en faire un autre symbole, et un symbole de colère. Et un symbole de colère, ça correspond à la femme d'aujourd'hui.
C'est ce que pense d'ailleurs Virginie Despentes de votre travail, de votre approche de Marilyn pendant le tournage de ce film de John Huston, de Misfits. Elle dit que, qu'en voyant Marilyn Monroe dans ses états d'âme, en colère, en voyant Marilyn Monroe malade, Marilyn Monroe...
Avec ses grosses cuisses, moi je ouais. m'appelle, Virginie m'a dit, tiens c'est marrant, tu l'as dessinée avec des grosses cuisses, mais ça la rend humaine.
Et raconter les règles douloureuses de Marilyn Monroe, c'était aussi pour lui rendre cette humanité que Hollywood lui avait confisquée.
Et puis aussi pour sortir du côté morbide de la perception qu'on a du film. Le film n'est pas forcément morbide, mais le film est devenu un mythe, pas aussi parce que Clark Gable est mort juste après, parce que Marilyn Monroe c'est son dernier film tourné, achevé entièrement. Et oui, il y a besoin de se rapprocher de ces acteurs pour comprendre qui sont les personnages. En fait, on est dans un grand mensonge qui est un acteur, qui est un personnage, qui est une personne. Et c'est un peu, je pense que Marilyn, la Marilyn en colère nous parle de nous, vraiment.
If you listen, you can hear it call. Sometimes wild and free. Love is a traveler on the river of no return. Swept on forever to be lost in the stormy sea. Forever my heart will yearn.
on the river of no return.
Parler d'un réveil culturel avec Marilyn Monroe, Luza.
Ah oui, mais peut-être qu'on a envie de retourner sous la couette aussi. Je crois que c'est un morceau. Moi, j'ai la chair de poule là. J'en veux plus. Peut-être les auditrices et auditeurs de France Culture aussi. Il y a quand on l'entend chanter particulièrement dans cette chanson, il y a quelque chose de très masculin. Il y a quelque chose qui il y a une voix, il y a un timbre derrière qui est pas entièrement féminin. Et je pense que c'est ça qui intrigue chez Marilyn Monroe, c'est malgré l'image, malgré le nacre qu'on nous impose, le nacre très glamour, séducteur, derrière il y a quelque chose qui peut être aussi séduisant, c'est que je pense qu'elle parle aux femmes parce qu'elle a quelque chose de masculin en elle. Elle parle aux hommes parce qu'elle a quelque chose de masculin aussi en elle. Et puis, peut-être, elle parle aux hommes qui ont quelque chose de féminin en eux, comme moi, en tout cas.
Puisque vous parlez de cette période-là, c'est-à-dire du tournage du film de Misfits, c'est le début des années 60, c'est peut-être la fin de l'âge d'or des studios hollywoodiens. On n'est pas d'ailleurs dans un studio hollywoodien, on est au Nevada pour la plupart des séquences, puisque ce sont des séquences tournées en extérieur. Luz, est-ce que ce film, c'est aussi un film qui marque la fin d'un rêve américain vendu par Hollywood?
Oui, je pense que ça a toujours été vu comme ça, et en même temps, je pense qu'il y aura eu une continuité parce que ça marque effectivement une espèce de, pas forcément de, on peut imaginer que c'est une forme de rupture, c'est un des derniers films, c'est un film en noir et blanc, 4 millions de dollars à l'époque, alors que c'est plus du tout la mode. Après, effectivement, vont arriver les Scorsese, les De Palma, un cinéma qui sera plus intimiste. Effectivement, il y a quelque chose qui change là-dedans. Parce qu'on se rapproche des acteurs, mais pas en tant qu'acteur, en tant que personne. Je pense que le film a été Houston a compris qu'il fallait utiliser ces acteurs comme une matière malléable et que c'était la dernière fois que c'était possible avec des stars. C'était la dernière fois qu'on allait pouvoir montrer vraiment des gens déglingués, et qu'après les gens déglingués, ce seront les personnages, ce ne seront pas les acteurs.
Est-ce que le caractère tournage maudit du film, c'est ça qui vous a le plus intéressé? Ça va être quand même le dernier film de Marilyn Monroe, le dernier film de Clark Gable. Ça ne va pas s'arranger pour le pauvre Montgomery Clift après ce film, même si là on voit bien... Et vous insistez d'ailleurs pour bien le montrer dans ses délires.
Oui, déjà c'est un film maudit parce que c'est un film qui a pas marché du tout. C'est un film qui est... C'est aussi le crépuscule des acteurs eux-mêmes, c'est-à-dire que ce qui est intriguant, c'est de se dire, c'est dans ce film peut-être même Clark Gable a tout donné de lui-même, et c'est parce qu'il a tout donné de lui-même qu'il va claquer d'un arrêt cardiaque deux semaines plus tard. Et c'est vrai que j'avais envie de voir quel était le... je me suis intéressé où en étaient les acteurs à ce moment-là? Où en était Montgomery Clift, qui lui est un acteur génial et qui va donner tout ce qui est possible dans ce film-là, alors qu'après, il va faire quand même un film avec Houston qui s'appelle la passion de Freud, j'avais oublié le titre. Et je me suis demandé, mais en fait, il en était où, Montgomery Clift, là-dedans? Ah bah oui, il avait un accident de bagnole, un peu comme James Dean, sauf que lui, il a survécu, et donc il y avait j'ai compris que chez Montgomery Clift, il y avait cette angoisse du survivant, et cette nécessité de continuer le cinéma, parce que c'était la seule chose, c'était le seul mensonge qui lui permettait de survivre à son autre mensonge, qui était celui de ne jamais dévoiler son homosexualité. Et voilà, les acteurs étaient encore sont les personnages. On se rappelle plus du nom des personnages de Marilyn Monroe, par exemple. On sait pas. Là, elle s'appelle Roselyne, le personnage, mais dans l'ensemble de sa cinématographie, Marilyn, c'est Marilyn. Et donc, là, il fallait s'intéresser au cœur même du personnage, et en particulier du personnage de Marilyn, parce que peut-être elle a quelque chose à nous dire encore à travers toutes ces décennies.
Dans le Hollywood de Luz, on réalise que les corps d'hommes sont soumis dans la fabrication à la même violence que ceux de leurs partenaires. Mythes crucifiés, vaches sacrées qu'on mène à l'abattoir, dans la salle des machines, les corps d'hommes sont tout aussi réprimés, malmenés et exploités. Tous sacrifiés sur l'autel d'un même mensonge. Menteurs quand ils prétendent sourire pour la photo. Menteurs cachant leurs pilules, leurs bouteilles, tout l'arsenal de la béquille chimique. Menteurs quand ils séduisent. Menteurs sur leur douleur qu'ils planquent, sur leur sensation de honte et de grotesque et de pathétique. Menteurs sur leur vie privée, menteurs sur ce qu'ils pensent les uns des autres. C'est ce qu'écrit Virginie Despentes.
Ouais, c'est très juste. Elle a bien vu quelque chose que moi j'avais pas forcément vu tout de suite. C'est que, en fait, dans l'histoire,
ça s'appelle Hollywood menteur.
Oui, ça. Oui. Mais il y a un petit détail au début, c'est qu'elle a bien perçu que dans l'histoire, les cowboys sont là pour choper des animaux sauvages, des mustangs, et les emmener à l'abattoir. Et finalement, au cœur de ce film, malgré le film, finalement peut-être intrinsèquement au film, et ce n'était pas le sujet du film, ce film emmène ses propres acteurs à l'abattoir. Ce film c'était pas le scénario du film. Le scénario, c'était peut-être effectivement un monde, un western. C'était comme disait Miller, un eastern, c'est-à-dire un western écrit depuis New York quelque part. C'est un monde qui parle de l'effondrement de comment Hollywood est en train encore une fois en train de bouffer, de hacher menu ses acteurs. Et ça a continué. Ça a continué par la suite, d'une autre manière. Mais c'est pour ça qu'il y a eu MeToo. C'est pour dire, ah ben non, nous, il y a quelques personnes qui sont là pour dire non, on n'a plus envie de se faire hacher menu par Hollywood ou par les prédateurs d'Hollywood.
Et s'il y a cette postface de Virginie Despentes, c'est-à-dire un des plus grands écrivains contemporains français, c'est parce qu'elle se souvient que vous avez été là au début de ces combats féministes. On découvre d'ailleurs des choses sur votre vie, Luz, dans cette postface de Virginie Despentes. Hollywood menteur, graphiquement, vous multipliez les plans comme si on était au cinéma.
Ah, je sais pas si je multiplie les plans comme si on était au cinéma. Je pense que je suis plutôt obsédé par l'idée du dessin pur. C'est-à-dire que, il faut que le dessin, faut qu'un livre de dessin soit un livre de dessin. Moi, je pense que c'est plus un livre de dessin presque qu'une bande dessinée. Effectivement, il y a un système bande dessinée. Mais ce que je trouve intéressant, c'est j'utilise le pinceau, j'utilise le lavis, j'utilise tout ce qui est.
Mais pour possible. Les points de vue, des fois c'est aérien, des fois c'est des gros plans. On a l'impression que de temps en temps vous prenez la grue de l'équipe de John Huston.
Ah peut-être. Mais je pense que pour moi le plus important c'est le trait. Ce qui est intéressant dans le noir et blanc, en tout cas en dessin, c'est que vous laissez du vide à l'intérieur. Vous laissez du vide dans vos personnages. Et c'est là où le lecteur peut se dire je peux piocher quelque chose dans le personnage. Alors quand c'est du pinceau, le vide est encore plus important parce qu'autour le trait est encore plus gras. Et c'est là où je vais emmener mon lecteur ou ma lectrice.
L'album, c'est un album grand format, Hollywood menteur, édité par Futuropolis. Est-ce que les dessins, ils ont à peu près la même taille que cet album? Je vous dis ça parce que vous allez exposer à partir de demain les dessins de cet album dans une galerie parisienne, c'est-à-dire chez Huberti et Ibrahim.
Oh ben ils sont un peu plus grands même. Ils sont un peu plus grands. Moi, il faut que je réduise un petit peu. Je suis bigleux, vous savez. Je dessine en très 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 grand. Si je pouvais dessiner aussi grand que la Terre, je le ferais.
Ça m'a fait plaisir de vous revoir, Luz.
Moi aussi.
Hollywood menteur, c'est édité chez Futuropolis. C'est la dernière bande dessinée de Luz et ça raconte le tournage d'un film devenu culte de Misfits, les désaxés de John Huston. Bonne matinée sur France Culture. Je vous retrouve lundi.
Vous êtes sur France Culture, dans un instant les informations de 6h30. À suivre, le journal des idées par Jacques Munier et les enjeux internationaux par Xavier Martinet.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Chaque vendredi dès 18h20, le rendez-vous du Bel Air. Hervé Gardette, Arnaud Laporte.
Tiens Hervé Gardette.
Mon Dieu, mais c'est vous Arnaud Laporte?
Vous m'avez reconnu, je n'ai pas changé. Et une chose qui ne change pas, c'est qu'on donne rendez-vous à nos auditrices et auditeurs au Bel Air tous les vendredis. Pourquoi?
Alors, 18h20, c'est le Club des Idées.
19h, la dispute cinéma ou série.
Tous les vendredis, donc au Bel Air.
Les experts.
Le rendez-vous du Bel Air, en direct, en public, du bar de la Maison de la Radio, tous les vendredis à 18h20 et sur franceculture.fr. Parlons culture, autrement, l'anachronique culturelle. Mathilde Serrel.
Et si nous faisions un voyage dans le temps? Posons notre vaisseau spatial à l'inauguration de la fresque du Jugement dernier, devant le chantier des colonnes de Buren ou à la première du Sacre du Printemps. L'anachronique culturelle vous propose de revivre ces grands événements de la culture comme si c'était hier, pour comprendre ce qu'ils disent de l'époque, mais aussi de notre présent.
L'anachronique culturelle, Mathilde Serrel, en podcast et en podcast seulement sur franceculture.fr.
Vous êtes sur France Culture, tout de suite le journal de 6h30 avec Anne-Laure Chouin.
Bonjour à toutes et à tous. Dans ce journal, retour sur le premier débat des têtes de liste françaises aux élections européennes. Hier soir, un débat parfois confus du fait des temps de parole contraints, nous dira Élodie Forêt. Nous reviendrons également sur les commémorations des 25 ans du génocide des Tutsis au Rwanda, avec une exposition présentée au mémorial de la Shoah à Paris et Drancy. Enfin, quand l'homme le plus riche du monde divorce, c'est la bourse américaine qui tremble. Jeff Bezos, le président d'Amazon, pourra garder la plupart de ses actions, récit de Grégory Philips. 50 jours avant les élections européennes, ils étaient 12 réunis hier sur le plateau de France 2 et sur France Inter. 12 têtes de liste aux élections, donc pour le premier débat télévisé de ce genre. Un premier exercice parfois confus, mais la plupart des grands sujets européens ont pu être abordés. Gouvernance, fiscalité, écologie, immigration notamment. L'enjeu pour les petits candidats, comme on dit, c'était surtout de se faire connaître. Retour sur la soirée avec Élodie Forêt.
Attaqué de toutes parts.
Quand je vous entends, Madame Loiseau, expliquer que vous êtes fière, je vous le dis, vous devriez regarder vos pompes.
La candidate de La République En Marche, Nathalie Loiseau, peine à s'imposer.
Monsieur Baldella, vous êtes très grand, vous avez une grosse voix, on l'a tous compris, mais laissez-moi parler.
À ses côtés, donc, Jordan Bardella, jeune candidat RN, affiche un sourire serein, plus transparent, la tête de liste LR, François-Xavier Bellamy, très mal à l'aise lorsqu'on évoque l'hypothèse d'une adhésion de la Serbie à l'UE. Lui est contre, mais d'autres dans son parti aurait voté pour, comme n'a pas manqué de lui rappeler Nicolas Dupont-Aignan.
Si vraiment vous avez un problème avec les membres de votre liste, moi je vous accueille sur la liste de Debout la France. Je serai très heureux.
Il y aura au moins quelqu'un.
À gauche, une bonne prestation du communiste Yann Brossa, très percutant, mais on retiendra surtout ce constat d'échec général dressé en conclusion par Raphaël Glucksmann.
Si la situation est si grave, pourquoi Benoît, pourquoi Yannick, on n'est pas en train de se battre ensemble? Notre comportement n'est pas du tout à la hauteur des périls et en fait, on s'en mordra les doigts. L'histoire nous jugera.
Échec de la gauche, échec de l'Europe aussi, ironise François Asselineau.
Ce que je trouve fascinant, c'est que tous les sujets que l'on aborde, on montre que l'Europe ne marche pas.
Oui.
Le fondateur de l'UPR, qui sera le seul à se présenter en 2022 à la présidentielle, tous les autres se sont engagés, s'ils sont élus, à assumer leur mandat jusqu'au bout.
Élodie Forêt, Muriel Pénicaud ne devrait pas être poursuivie par la justice. Des juges d'instruction enquêtaient sur ses agissements à la tête de Business France, organisme chargé de la promotion de la France auprès des investisseurs étrangers, et plus particulièrement sur le financement d'un voyage de celui qui était ministre de l'économie à l'époque, Emmanuel Macron, un voyage à Las Vegas. L'enquête a blanchi, a priori, la ministre du Travail. Les précisions de Sarah Guibaudot.
Depuis sa nomination, ce dossier était comme une épée de Damoclès pour Muriel Pénicaud. Mais l'instruction s'achève et elle n'a été entendue que sous le statut de témoin assisté. Elle devrait donc sortir blanchie. En revanche, une ancienne cadre de Business France et le géant de l'événementiel Havas risquent d'être renvoyés en correctionnel. Depuis le début et après un rapport de l'inspection des finances, le parquet de Paris considère qu'il y aurait dû y avoir un appel d'offres pour l'organisation de cette soirée à 300 000 euros qui a permis à l'ambitieux Emmanuel Macron de s'afficher avec les start-up françaises. Un vrai show à l'américaine, mais monté en quelques semaines, ce qui explique en partie le dérapage financier. Havas maintient que l'opération s'intègre s'intégrait dans un grand contrat global, remporté lui après appel d'offres, sans convaincre la justice à ce stade. La justice qui ne retient pas non plus l'hypothèse d'une collusion entre l'entourage d'Emmanuel Macron et Havas.
Il y a 25 ans, près d'un million de personnes étaient massacrées au Rwanda, des Tutsis pour la plupart et des Hutus opposés au régime génocidaire. Sur les responsabilités, notamment de la France dans ce génocide, il reste des zones d'ombre. L'association Survia, par exemple, lançait hier une campagne intitulée « 25 ans d'impunité ». Le mémorial de la Shoah à Paris présente, lui, une exposition dans la capitale, mais aussi à Drancy, en banlieue parisienne, une exposition qui interroge les raisons de ce génocide rwandais, avec en sous-texte cette question « Comment enseigner les génocides, notamment aux enfants ?» Une exposition, Isabelle Pasquier, qui commence par des dessins d'enfants rescapés.
Le génocide des Tutsis regardé avec les yeux des enfants, c'est ce que nous montrent ces dessins d'enfants rescapés. Au Rwanda, il y a 25 ans, des milliers d'enfants ont été torturés, assassinés. Et selon l'UNICEF, 70% des enfants ont été témoins de mises à mort, de violences extrêmes et le plus souvent contre leur famille. Devant nous, le dessin de Paul qui raconte l'indicible. Une tête coupée, des corps démembrés, une maison en feu. Paul s'est représenté, tout petit, caché dans un champ de sorgho. Effroi aussi à Drancy, devant des machettes, un biberon, des habits d'enfant prêtés par le mémorial de Kigali. Marcel Kabanda a perdu toute sa famille en 1994. Aujourd'hui, il préside l'association Ibuka, qui veut dire « Souviens-toi » en Kinyarwanda.
C'est peut-être ça qui est le seuil où un massacre bascule dans un génocide. C'est quand on commence à tuer les bébés, qui ne représentent pas une menace physique, politique, idéologique, etc. On est dans une logique d'extermination.
Et au mémorial de la Shoah, on dissèque la machine génocidaire, la politique raciale de la colonisation, avec des documents à charge contre la France, qui a encore beaucoup de chemin à faire avant de reconnaître sa responsabilité dans ce dernier génocide du XXe siècle.
Isabelle Pasquier, une exposition visible jusqu'au 17 novembre au mémorial de la Shoah à Paris et Drancy. En Libye, 10 jours avant une conférence nationale sur l'organisation d'élections, le spectre de la guerre civile refait son apparition avec l'arrivée des forces du maréchal Haftar aux portes de Tripoli. Un convoi armé de l'homme fort de l'Est libyen a pris position à moins de 30 km du siège du gouvernement d'Union nationale et il suscite les craintes donc d'un embrasement militaire. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir en urgence aujourd'hui. Le SIDAction 2019 débute ce vendredi en France et pour trois jours destinés à convaincre de donner à cette association qui lutte depuis 25 ans contre le VIH. Elle finance à part égale la recherche, la lutte contre l'épidémie à l'échelle mondiale et l'aide aux malades en France. Autre grand défi, le dépistage de la maladie. En France, 6000 personnes découvrent chaque année leur séropositivité. Et surtout, c'est un chiffre qui ne diminue pas en raison notamment des fausses peurs qui entourent la maladie. Écoutez Sandrine Fournier qui dirige les programmes de SIDAction. Elle est interrogée par Tara Schlegel.
L'épidémie, elle est vraiment alimentée par des personnes qui n'ont pas encore été dépistées et qui ignorent avoir le VIH. Et la dynamique de l'épidémie, elle est vraiment à cet endroit-là. En fait, parce que une fois que les personnes sont efficacement traitées, elles ne transmettent plus le VIH aujourd'hui. C'est-à-dire que la quantité de virus dans le sang et dans les sécrétions est tellement faible qu'on ne peut plus le transmettre. Et c'est important de le dire parce que ça fait partie des peurs aussi qui nous empêchent d'aller nous faire dépister. Ce sont des peurs, bon, qui sont justifiées au regard de la situation sociale du VIH aujourd'hui. Dès lors qu'on a accès aux soins, bien entendu. Donc l'autre difficulté, c'est d'avoir accès aux soins pour certaines catégories de population. Mais sinon, lorsqu'on a accès aux soins, vraiment, on vit aujourd'hui une vie quasi normale. On a une espérance de vie qui est tout à fait équivalente à celle de la population générale. La difficulté, elle est d'abord sociale. C'est-à-dire qu'en revanche, si on a si peur aujourd'hui de contracter le VIH, c'est parce qu'on sait à quel point le VIH est discriminé encore aujourd'hui en France. C'est-à-dire que à différents moments de votre parcours, lorsque vous tombez amoureux, lorsque vous vous rendez dans un service de soins, vous n'êtes pas tout à fait traité de la même manière quand vous avez le VIH. Sur votre lieu de travail, le dire ou ne pas le dire, avec des conséquences qui, évidemment, peuvent être très négatives. Donc, vous voyez, c'est une situation très paradoxale dans laquelle, au fond, les progrès scientifiques sont considérables, mais où, dans le même temps, ça n'avance pas au niveau social. C'est-à-dire, on est toujours autant rejeté aujourd'hui en France quand on vit avec le VIH. Et c'est là-dessus vraiment qu'il faut qu'on progresse.
Sandrine Fournier de Sidaction. Quand l'homme le plus riche du monde divorce, les enjeux à la fois financiers et économiques sont énormes. C'est tout un secteur qui tremble. En début d'année, le fondateur et patron d'Amazon, l'Américain Jeff Bezos et son épouse Mackenzie avaient annoncé leur séparation, provoquant l'inquiétude de la bourse sur une éventuelle perte de contrôle du PDG sur son entreprise. Finalement, Jeff Bezos conservera 75% des actions que possédait le couple et surtout l'intégralité des droits de vote lié à ses actions. À Washington, Grégory Phillips.
La future ex-femme de Jeff Bezos, Mackenzie, l'annonce sur Twitter. Elle laisse à celui qu'elle a épousé il y a 25 ans l'intégralité de ses parts dans le Washington Post et dans la société spatiale Blue Origin. Et surtout 75% des actions Amazon que possédait le couple. Les Bezos étaient encore propriétaires d'environ 16% du capital de l'entreprise. Leur fortune estimée à environ 136 milliards de dollars. Surtout, elle abandonne à Bezos tous les droits de vote liés à ses actions, ce qui signifie que le fondateur d'Amazon conserve les rênes de la société. Divorce à l'amiable donc, ce qui n'était pas évident car ce sont des révélations dans la presse à scandale sur une relation extra-conjugale de Bezos qui ont provoqué cette séparation. Mais au terme de la procédure, dans environ 3 mois, Mackenzie Tuttle restera propriétaire d'environ 4% du capital d'Amazon. Avec une fortune estimée à 36 milliards de dollars, elle va devenir la 3e femme la plus riche du monde. Et sur Twitter, lui aussi, Jeff Bezos la remercie pour son soutien et sa gentillesse.
Le temps de ce vendredi, du soleil dans le Grand Est, en Rhône-Alpes et en PACA, dans les Hauts-de-France et jusqu'au Languedoc-Roussillon, le ciel sera voilé de la pluie de la Bretagne à la côte atlantique. Les températures toujours fraîches ce matin, de moins 3 à 8 degrés cet après-midi, comptez au plus chaud de 11 à 19 degrés. Et à 6h40 sur France Culture, on retrouve Jacques Munier. Bonjour Jacques.
Bonjour Anne-Laure Chouin.
Ce matin, dans votre journal des idées, le genre des mots, au-delà de leur sens propre, les mots reflètent des représentations, ils sont chargés d'histoire. En analyser les usages et les effets permet donc d'esquisser des physionomies sociales.
Oui, dans les pages idées de Libération, Alex Albert interroge l'usage du tutoiement qui se répand dans les entreprises. Près des 2/3 des salariés dans le privé tutoient leur supérieur hiérarchique direct, selon une enquête de 2006. Plus égalitaire, plus moderne, plus simple, le tutoiement n'a apparemment que des avantages, écrit-il, face à un vouvoiement qui semble de plus en plus guindé, formel, distant, un héritage d'anciens régimes qui sépare les conditions sociales, une frontière linguistique qui souligne autant qu'elle produit les inégalités statutaires. On devrait donc y voir le signe d'une modernisation des organisations productives. Les entreprises seraient-elles devenues plus égalitaires ? À regarder de près, rien n'est moins sûr. Pour le sociologue, le tutoiement est porteur de logiques managériales qui le rendent très ambigu. L'enquête révèle notamment qu'il va de pair avec l'introduction de nouvelles méthodes de travail, là où le contrôle est plus distant, où les salariés sont libres d'organiser leur activité, de proposer des améliorations, etc. Mais c'est là aussi que les objectifs chiffrés et les parts salariales variables sont les plus répandus. Autant de méthodes qui responsabilisent les salariés en individualisant leurs conditions d'emploi, quitte à faire peser sur eux une pression accrue. Le tutoiement viendrait ainsi euphémiser les rapports de pouvoir. Sous le règne du néo-management, ce sont les normes, les procédures, les chiffres, les tableaux de bord et autres reporting qui exercent le contrôle effectif du travail. Par ailleurs, les femmes ont moins tendance à tutoyer leur chef, 49% seulement contre 71% pour les hommes, un écart significatif qui s'explique du fait que les femmes ont souvent des chefs hommes et qu'elles évitent par prudence un registre trop familier avec eux. Christine Barr et Frédéric Lenant publient un ouvrage collectif sous le titre « Dire le genre » à CNRS Éditions. Elle relève la part de l'histoire dans la domination du masculin. Le neutre a longuement existé en français. Il est issu d'un latin tardif et parlé. Au pluriel, sa principale désinence était en « a ». En témoigne par exemple l'évolution d'un mot comme « folium » donnant « folia » au pluriel, puis « feuille ». Le suffixe « a » étant identifié comme féminin, s'est transformé en « eux », devenu muet. Résultat, le féminin ne s'entend plus. De même, l'accord pluriel au masculin, selon le principe, le masculin, le fameux principe, le masculin l'emporte sur le féminin, n'a pas toujours prévalu. Au Moyen-Âge, cet accord est dit de proximité, au plus près du mot auquel un adjectif ou un participe se rapporte. Le genre est devenu, sous l'Ancien Régime, et la volonté farouche d'auteurs comme Malherbe ou Vaugelas, une grammaire exclusive. Écrivaine ou autrice existait respectivement au XIVe et au XVIe siècle. Aujourd'hui, l'écriture inclusive s'emploie à démentir cette évolution, mais elle reste improbable à l'oral. Une curiosité, l'usage espagnol de l'arrobase pour terminaison au pluriel en guise de réconciliation de la différence des genres, et là aussi, ça reste cantonné à l'écrit. Les auteurs ou autrices évoquent la féminisation des noms de métiers qui progressent au milieu des représentations sexistes, lesquelles continuent pourtant de s'exprimer dans les récits biographiques recueillis par la sociologue Marie-Laure Deroff. Observe que les hommes ont davantage tendance à produire des récits carrés, exprimant une forme de cohérence et de maîtrise où le passé est au service d'un présent postulé comme aboutissement d'une chronologie, quand les femmes, plus impliquées dans le quotidien, ont une lecture synchronique de leur identité narrative et surtout, elles sont plus enclines à révéler l'intimité de leur vie sexuelle, conséquence d'une connivence clanique, d'une culture de la confidence résultant des discussions nourries entre adolescentes. Quelle différence y a-t-il entre un galant homme et une femme galante? Je vous laisse deviner. Alain Viala met à l'épreuve de ces différences de genre un mythe constitutif de notre identité française, la galanterie, dans un livre publié sous ce titre au Seuil. Lesté aujourd'hui d'enjeux sociaux et politiques, la civilité, la morale amoureuse, la condition féminine, elle a été un modèle culturel majeur des 17e et 18e siècle, un temps éclipsé par les tricoteuses des assemblées révolutionnaires, la notion revient en force dans la littérature et les arts. Watteau et l'école galante, où le mot penche davantage vers le libertinage que vers les qualités de prévenance, c'est toute une histoire sociale et culturelle qui est contenue dans ce mot. Ernst Cassirer estimait que les mots sont des gestes fossiles, et notamment le premier d'entre eux, le geste déictique, qui désigne l'objet référent, ça c'est une chose, un arbre, une fleur. 6h45 sur France Culture, c'est l'heure des enjeux internationaux. Bonjour Xavier Martinet.
Bonjour Jacques Meunier, bonjour à tous.
Au programme aujourd'hui, la charia au sultanat de Brunei.
Et voilà, les condamnations internationales se multiplient depuis l'entrée en vigueur mercredi des peines de mort pour les personnes convaincues d'homosexualité, d'adultère, mais aussi des peines de mutilation pour le vol. C'est un pas en arrière pour l'ONU, mais un renforcement de l'enseignement islamique pour Hassan al-Bolkiah, le sultan du petit royaume, riche et à la population fidèle au roi. Alors, témoignage de foi ou manœuvre politique, on voit ça avec vous, Marie-Sybille de Vienne, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être au téléphone. Vous êtes professeur à l'INALCO en économie et géopolitique de l'Asie du Sud-Est, auteur de Brunei, de la thalassocratie à la rente. Alors justement, les diplomaties, je le disais, et l'opinion occidentale sont braquées, hein, mais Brunei se distingue peut-être aussi de la partie islamisée de l'Asie du Sud-Est où il se trouve, puisque, si je me trompe pas, il deviendrait quand même le premier État d'Asie du Sud-Est à introduire la charia, ou plutôt le code pénal islamique au niveau national.
Pères du sultanat de Brunei en Asie du Sud-Est, ce sont les 9 sultans de Malaisie péninsulaire qui, eux, sont des monarques constitutionnels et qui ont, dans une posture traditionnellement inverse de la posture du sultanat de Brunei, c'est-à-dire eux se sont opposés à plusieurs reprises en usant de leur seule posture qui leur reste, qui est celle de chef religieux, à l'instauration du code pénal islamique dans les États où la question se pose, qui sont les deux États en Malaisie où le parti islamique a gagné les élections locales, sur la côte est, le Terengganu et le Kelantan, où l'application de ce code pénal islamique est en suspens. Au Brunei, c'est donc l'inverse qui se passe.
Le Kelantan qui se trouve sur la péninsule, effectivement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, justement, je disais, charia ou code pénal. Charia, c'est le mot qu'on utilise ici et dans les dépêches, mais il s'agit de peines, surtout de peines pénales. Hein.
Oui, le mot charia est utilisé à tort, parce que c'est plus commode dans la presse occidentale. Charia désigne l'ensemble d'un droit islamique qui, tout pour ce qui concerne le droit de la famille, par exemple le mariage ou l'héritage, est appliqué depuis des lustres dans les pays musulmans du reste du sud-est asiatique, comme dans une bonne partie du reste du monde musulman. En revanche, le hudud, c'est-à-dire les châtiments corporels, le code pénal islamique, lui, est fait l'objet de débat, puisque seule une petite partie des pays musulmans l'applique.
Et alors, en quoi c'est une situation qui est différente par rapport à ce qui se passait en 2014? Parce que déjà, à l'époque, il y avait eu l'introduction de la charia, du code islamique au niveau national. Il n'y avait pas encore ces peines prévues concernant l'homosexualité ou concernant le vol, les peines au corps. Mais il y avait eu à peu près les mêmes réactions, le boycott de certains grands hôtels de la part d'Hollywood. Finalement, la situation en était restée jusque-là. Alors, quel est le pas qui est franchi aujourd'hui ?
Alors, en réalité, la loi date de 2013. Elle a soulevé des protestations au regard de son caractère rétrograde et inéquitable pour une partie des dispositions qu'elle comprend. Et le sultan a pris la décision de l'appliquer de manière progressive. Et vous aviez déjà eu l'année dernière la mise en place de châtiments corporels pour des délits mineurs. Ce qui change, c'est que à partir de mercredi, c'est l'ensemble du code pénal islamique qui rentre, lui, en application.
Et il y a des questions qui se posent quant à l'applicabilité de ces peines, la question des témoins, des peines qui ne pourraient être appliquées qu'en cas d'aveu formel ou de quatre témoins possibles, et puis reste à trouver des gens pour les appliquer aussi. Hein.
Bien sûr. Alors, ces peines, les peines les plus dures, c'est-à-dire celles qui sont imposées en cas d'adultère et en cas de relation homosexuelle, impose malgré tout à l'accusation de faire la charge de la preuve. Et la charge de la preuve, elle passe par le recours à des témoins de bonne foi, qui peuvent déclarer avoir vu les faits en question. Ce qui, évidemment, pour ces deux types de délits, devient extrêmement difficile, puisqu'il ne suffit pas d'un prélèvement ADN, où il ne suffit probablement pas, mais pour l'instant il n'y a pas encore de jurisprudence au Brunei aussi, d'un enregistrement par des caméras de télévision. Il faut une preuve de témoin physique, puisque les outils pouvant servir de preuve ne sont pas considérés comme valables.
Ce qui veut dire que cette loi est quasiment inapplicable, c'est un peu ça ?
Alors, cette loi, elle va être très difficilement applicable, d'autant que pour l'instant, il n'y a pas de jurisprudence au Brunei. Elle est considérée comme un outil pour forcer les Brunéiens musulmans à vivre de manière la plus conforme à l'islam, et pour imposer aussi au reste de la société un type de comportement correct. Oui. Alors, en sachant que pour la question de l'homosexualité, ça dépasse le cadre des seuls musulmans, ça dépend aussi quels sont les acteurs en jeu, avec un des deux acteurs qui est musulman. Donc le détail, si vous voulez, de l'application des peines n'est pour l'instant pas tellement précis, et évidemment tout le monde espère que les difficultés de l'instruction qu'il n'y a pas de véritable jurisprudence qui sera mise en place.
Et le fait que le Premier ministre, il y a eu un communiqué de son bureau, le sultanat en fait, ait précisé qu'il y ait deux systèmes, un civil et un applicable aux musulmans, qui continueront à s'appliquer en parallèle, est-ce que ça vaut pour ces questions-là ?
Alors, ça vaut pour ces questions-là, ça va valoir en partie pour le, par exemple, pour ce qui est des délits comme le vol. Alors, faut pas oublier que le Premier ministre, c'est le sultan. Hein. Le sultan, il est Premier ministre, ministre des Finances, ministre des Relations étrangères, ministre de la Défense et chancelier de l'Université. Donc, il y a toujours deux régimes au Brunei qui ne sont pas une chose nouvelle. Vous avez le régime de la common law de type britannique et vous avez le régime du droit musulman de la charia. Le problème, c'est que depuis les années 90 et surtout depuis le début des années 2000, la compétence de la common law n'a cessé de se réduire puisqu'on on assiste à une islamisation progressive de la société et des modes de vie. Donc l'inquiétude également des non-musulmans qui résident au Brunei, qu'ils soient citoyens brunéiens ou pas, c'est d'assister à une continue réduction de champ de la common law et qu'à ce moment-là, elles finissent par être en quasi-totalité mise de côté.
Donc inquiétude des 10% de chrétiens et 13% de bouddhistes.
Alors le découpage ne signifie pas grand-chose. Pour la partie historiquement non musulmane de Brunei, le christianisme est quelque chose qui gagne. C'est aussi un autre problème. Il est par exemple pénalement répréhensible si vous parlez d'une religion autre que l'islam à des gens qui sont athées ou qui sont d'autres d'autres religions. Il y a une grande peur d'activités missionnaires, quelles qu'elles soient.
Et justement, alors dernière question, puisqu'il y avait déjà eu effectivement l'interdiction des fêtes de Noël catholiques en 2015, des fêtes boutiques, interdiction de l'évangélisme également. Est-ce qu'il s'agit là d'un resserrement, on pourrait dire identitaire, ou d'une manœuvre, disons, vous disiez imposer un type de comportement pour prévenir toute la jeunesse en fait du pays, jeunesse en grande partie au chômage, dans une économie en croissance très faible, en yo-yo. Est-ce qu'il y a cet aspect-là aussi?
Alors, les jeunes ont du mal à trouver effectivement du travail. Cela dit, vous avez 55% de la population permanente du Brunei, citoyens et résidents permanents, qui sont employés par l'État. Ce qu'il y a, c'est que la situation économique qui va un peu mieux maintenant qu'il y a un an, fait que l'État ne peut pas continuer indéfiniment à créer de l'emploi, puisque vous avez déjà un fonctionnaire pour 8 personnes habitant au Brunei. Cela dit, le sultan reste globalement populaire. Les Brunéiens bénéficient d'un coton social qui est le plus protecteur de toute l'Asie orientale, de la naissance à la mort, et même le pèlerinage est le plus souvent à la Mecque est gratuit. Donc l'opposition, tout est fait pour qu'elle n'existe pas, mais elle est en même temps inexistante, parce que quand vous avez toutes ces facilités-là, pourquoi protester ?
Et même s'il y avait déjà eu quelques protestations sur les réseaux sociaux en 2014, enfin on en reparlera.
Moi qui navigue sur les réseaux sociaux, en particulier en malais, parce que c'est pas les mêmes gens qui surfent en malais et que ceux qui surfent en anglais, c'est pas forcément les mêmes origines ethniques, vous pouvez dire qu'il y a eu des protestations, oui, mais elles restent modérées.
C'est dit, en tout cas, je vous remercie pour vos explications aujourd'hui, Marie-Sybille Devienne. Désolé de vous couper, il faut rendre l'antenne. On renverra à votre livre, en tout cas, Brunei de la thalassocratie, à la rente, édition du CNRS en 2012.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
France Culture présente le festival Escale du Livre à Bordeaux. 3 jours de rencontres et de débats avec des écrivains et des illustrateurs, des lectures, des performances, des créations inédites et un village d'éditeurs et de libraires. Un programme éclectique mêlant les littératures avec des auteurs confirmés et des écrivains en devenir. Parmi les nombreux invités, retrouvez notamment Jean-Christophe Ruffin, Barbara Stiegler, Martin Winkler et Pierre Bergugno.
Escale du Livre à Bordeaux, du 5 au 7 avril, à partenariat France Culture.
6h57 sur France Culture, l'heure des matins avec vous.
Mais c'est ça, bonjour Xavier Martinet, bonjour à toutes et à tous.
Et vous venez avec la bonne nouvelle du vendredi, puisque nous sommes tous des malades de la thyroïde.
Oui, nous avons tous besoin de l'évothyrox, ou nous pourrions tous en avoir besoin. C'est ce que témoigne en quelque sorte cette histoire folle, un scandale dans le scandale lié au médicament donc l'évothyrox, destiné aux malades de la thyroïde, scandale que révèle le journal Le Monde, daté d'aujourd'hui. Alors l'histoire, je vous la rappelle, les laboratoires Merck mettent sur le marché une nouvelle formule du lévothyrox et de nombreux patients se plaignent d'effets secondaires, d'un retour des maux que ce médicament soignait auparavant avec l'ancienne formule. Et les critiques pleuvent alors sur ces malades. On dit qu'ils sont malades de la thyroïde, mais aussi malades de la tête, qu'ils inventent des maladies, qu'ils sont hypochondriaques, que les deux médicaments sont identiques et que plein d'études le prouvent. Oui, mais voilà, hier, coup de théâtre, les deux formules ne sont pas du tout identiques. 60% des patients, je dis bien 60, pourraient ne pas réagir de la même façon aux deux versions du médicament. En d'autres termes, 60% des patients pourraient ne pas être du tout soignés par la nouvelle formule du médicament, sachant que ce médicament n'avait rien pour eux d'un médicament de confort. Alors encore une fois, c'est le discours des laboratoires qui est mis en cause. Comment, après le scandale du Mediator et d'autres scandales, comment expliquer qu'une nouvelle fois on se soit trompé à ce point? Comment lutter contre le complotisme dans ces conditions? Comment lutter contre ceux qui disent que tous les vaccins sont mauvais? Si les laboratoires sont au mieux incompétents, au pire malhonnêtes. Car effectivement, le doute subsiste. On ne sait pas si l'erreur a été commise à dessein. En revanche, on sait quelle erreur a été commise. Et là aussi, c'est tout à fait effrayant. Les données des études donnaient des résultats moyens identiques entre les deux formules, entre la nouvelle et l'ancienne formule donc. Oui, les résultats moyens étaient identiques, mais les dispersions statistiques ne l'étaient pas. Et c'est d'un niveau a priori élémentaire, ce type d'erreur. C'est la différence classique entre un salon rempli de millionnaires et un bar où se trouvent des milliers de pauvres et Bill Gates. Au final, la moyenne des revenus est peut-être identique dans l'un et dans l'autre des cas, mais pas la dispersion. Même chose pour les patients du lévothyrox. En moyenne, ce médicament les soignait, mais en réalité, leur état de santé était très en deçà de la moyenne.
Les matins de France Culture, 7h-9h, Guillaume Herner.
Une page s'est tournée en Algérie mardi avec la démission du président Abdelaziz Bouteflika. Ce départ est vécu comme une première victoire par les nombreux opposants au pouvoir qui protestent dans les rues depuis 6 semaines. On revient sur ce départ et sur l'histoire de l'Algérie en compagnie d'un historien, Benjamin Stora. Il sera dans ce studio aux environs de 7h40. En attendant, bon réveil à tous. Il est 7h sur France Culture.